Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ce n'est ni un mythe, ni une légende. L'émission peut contenir des infos et bel et bien là cette semaine, mesdames et messieurs, fidèles au poste avec Sébastien Boucher qui est là au microphone. Salut Sébastien.
Bonjour, bonne semaine.
Et moi-même, Simon Forgue, qui complète ce duo avec des sujets encore, ma foi, très variés, très éclatés et très intéressants cette semaine. Sébastien qui va nous parler, entre autres choses, tantôt, dans le deuxième bloc, des prémonitions.
Ah oui, j'aime les petits sujets comme ça. Puis on avait parlé de certains sujets qui pouvaient ressembler, mais les prémonitions et pas la précognition ou les voyants, vraiment les petites prémonitions, les choses qui arrivent spontanées, ouais. Qu'on a, ou un rêve prémonitoire, des choses comme ça. Alors, on va aller creuser là-dedans, savoir de quoi il s'agit exactement, ce qu'on peut en comprendre.
Bon, moi je vais vous parler du mythe de l'Atlantide. Que vous avez déjà entendu parler de cette légende ou de ce mythe de l'Atlantide, ben, il est relancé ces jours-ci par une, on va dire, surprenante découverte. Toi, tu vas nous parler aussi tout à l'heure de magnésium.
Absolument. OK. Très important le magnésium et j'en entends beaucoup parler. Donc, j'ai fait des petites recherches un peu plus poussées là, pour savoir vraiment tous les bienfaits et à quel point c'est important de consommer du magnésium.
OK. En toute fin d'émission, je veux vous annoncer d'ores et déjà qu'on aura un quiz. Et est-ce que vous voulez savoir le sujet du quiz de cette semaine?
On y va-tu pour oui, non, oui, oui, vas-y, vas-y.
OK. Alors, ça va être un quiz sur les chapeaux.
OK.
Les chapeaux. Alors, je vais te demander tel type de chapeau. Tu sais, tu vas peut-être compléter des phrases avec le mot chapeau, des choses comme ça. Alors, il y a une dizaine de questions. Alors, on va compléter l'émission cette semaine avec les chapeaux, puis on va en apprendre encore, j'ai l'impression. D'abord, on parle de régime alimentaire, mais un peu de façon particulière, on va dire.
Le régime optimal.
OK.
Est-ce que ça te dit quelque chose? Le régime alimentaire optimal.
Je suis bien mal placé pour parler de régime alimentaire parce que je dois avouer que le mien est peut-être pas optimal, très honnêtement.
Bon, un petit côté santé à l'émission aujourd'hui parce que, comme tu le disais plus tard, on va parler de magnésium. Mais depuis 2022, il y a cette notion de régime alimentaire optimal, des chercheurs qui ont sorti ça. Et en 2022, une étude, mais ce qu'ils nous promettent, ben, c'est pas la vie éternelle, mais on parle quand même de 13,9 années de vie supplémentaire qu'on peut aller chercher avec un régime optimal. Mais l'affaire, là, Simon, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de sceptiques, et là, tu me vois venir, c'est pas qu'on est sceptique sur le fait que ça peut vraiment améliorer l'espérance de vie, c'est le fait que, est-ce que quelqu'un va pouvoir le tenir, ce régime alimentaire, toute sa vie, pour pouvoir bénéficier de ces fameuses années supplémentaires? Ouais. Donc, là est la question.
C'est ça. Mais,
oui, des scientifiques de l'Université de Bergen en Norvège, en 2022, qui ont dessiné le régime alimentaire optimal sur le plan de la santé, ils ont combiné pour la première fois des données de plein d'études internationales sur l'alimentation et on a comparé avec l'espérance de vie. Puis, recherche mondiale aussi pour quantifier les pertes de santé dues à des centaines de maladies, des facteurs de risque. Donc, la plus grande méta-étude sur le thème qui a jamais été réalisée, qui était sortie il y a 2 ans. Et abandonner l'alimentation qu'on a occidentale dès l'âge de 20 ans, pour avoir une assiette riche en légumineuses, en fait, des céréales complètes, des fruits à coque, des noix, hein, qu'on appelle fruits à coque, des fruits et légumes, et très pauvre en viande, ça serait à peu près ça le régime optimal, puis ça permettrait de gagner 13,9 années d'espérance de vie pour un homme, puis 10,6 pour une femme.
Quand même!
Puis passer 20 ans, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de panique, à 60 ans, ça vaudrait quand même le coup parce que ça pourrait rallonger notre espérance de vie de 8,8 ans pour les hommes et 8,2 ans pour les femmes si on se met à ce régime optimal. Mais là, de le tenir toute une vie pour bénéficier de ça, c'est pas évident. C'est plausible, par contre, d'avoir plus de vie. Comme par exemple, il y a une autre étude qui date de l'année précédente, 2021, dans Nature Food, qui parlait de conclusions vraiment semblables. L'Université du Michigan aux États-Unis qui avait sorti ça. Puis là, on avait décidé de mesurer l'impact de chaque aliment en minutes ou en heures d'année de vie qu'on sauve ou qu'on perd. Comme par exemple pour un hot dog, d'après toi, si on mange un hot dog, On gagne ou on perd de l'espérance de vie?
Ben, j'ai comme l'impression qu'on doit perdre.
En effet. On ajoute des risques liés à, bon, il y a 60 grammes de viande transformée, par exemple, dans une saucisse hot dog, de sodium, de graisse. Ça comprend beaucoup de choses pas très bonnes. Mais résultat, un hot dog, ça ferait perdre 36 minutes de vie en santé. Mais de la vie en santé, là, autrement, sans aucune incapacité, un hot dog nous ferait perdre 36 minutes de vie.
Je n'ai perdu des minutes dans ma vie, sais-tu?
c'est grave, là. Bon, je ne sais pas à quel point il faut prendre ça à la lettre. Il y a une vaste étude qui a été publiée en 2017 dans The Lancet qui avait mis en évidence qu'un décès sur 5 dans le monde serait provoqué par une alimentation qui est pauvre en céréales complètes, fruits et légumes, des noix et des poissons. Sur 11 millions de morts, en 2016, 10 millions étaient dus à des maladies cardiovasculaires pour excès de sel et 913 000 à des cancers liés à l'obésité, mais aussi des facteurs liés à la viande rouge, l'alcool, des choses comme ça. Puis 339 000 décès liés au diabète de type 2, fort apport en sucre et matière grasse. Donc, une mauvaise alimentation, on regarde ça, ça pourrait être plus mortel que le tabac. Et pourquoi les légumineuses sont si importantes dans ce régime optimal, là? Ils sont des sources de protéines, contiennent beaucoup de fibres et ça ralentit la digestion, ça stabilise le taux d'insuline, sentiment de satiété qui est amené par ça aussi, les légumineuses. Et ça disparaît pas très vite comme avec les féculents, avec les légumineuses, ça reste. Et puis déjà, on recule encore parce que je te vois d'étude en étude vers le passé. En 2004, il y avait déjà une étude qui concluait que les légumineuses, c'est le principal facteur alimentaire pour la longévité, pour prédire la longévité. Alors, c'est vraiment la meilleure chose à mettre dans l'assiette. Et pour chaque augmentation de 20 grammes par jour de légumineuses, on réduit le risque de décès de 8 %. C'est des beaux chiffres. Je te vois rire, Simon.
J'allais faire un gag. J'allais dire, manger des fèves au lard, ça va être bon pour la santé. Ça sera peut-être pas bon pour l'odeur, mais ça risque d'être bon pour votre santé.
Très important. Et pourquoi, là, riche en fibres et en fruits, aussi en céréales complètes, c'est pour renforcer la barrière intestinale. Puis ça fait comme un filtre, ça laisse passer les nutriments, mais ça bloque des agents comme pathogènes, comme des virus, des bactéries. Et on a tendance à déclencher des réactions immunitaires inappropriées, des phénomènes inflammatoires quand on a une mauvaise alimentation. Alors, on a aussi montré que la consommation d'aliments riches en fibres, ça favorise la production d'acides gras à chaîne courte, molécules synthétisées par le microbiote, ça renforcerait la barrière intestinale et ça modulerait les réponses inflammatoires et immunitaires. Donc, pour toutes ces raisons, c'est important. Alors, pourquoi pas pencher sur ce régime optimal? Et ce qu'on nous dit, là, c'est pas d'y aller à 100% parce que plus ça va, plus on est tranquille. On y va avec un bémol dans les recommandations. Des apports en acides gras, en vitamines et en noix, en fruits et légumes, ont des effets antioxydants et anti-vieillissement. Et c'est sûr que le manque de vitamines, ça tue personne. Hein? Puis on l'avait vu comme le scorbut qui était réapparu, on en a parlé récemment dans une émission. Puis juste la vitamine C, ça pouvait là, régler le problème. C'est une grosse carence en vitamine C. Mais si on a un manque de vitamines, en fait, même si ça tue pas personne, ça amène des problèmes de santé en cascade. Et puis dont je te parle de 2017, qui était juste sur des femmes qui présentaient un score antioxydant les plus élevés, il y avait un risque de diabète réduit de 27 % par rapport à celles qui avaient les plus faibles résultats. Puis pour ce qui est de la viande rouge, là, bien c'est sûr que le Centre international de recherche sur le cancer avait dit que chaque portion de 50 grammes de viande transformée, consommée tous les jours, ça augmente le risque de cancer colorectal de 18 %. Puis une fois digéré, le fer héminique, qui est à l'origine de la couleur rouge de la viande, eh bien, il se transforme en aldéhyde et ça a des effets de mutation, ça accélère le vieillissement, ça favorise la mort des cellules. Alors, les métiers de nutritionniste, par exemple, là, on se demandait des fois s'ils étaient voués à disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Là, on peut demander toutes sortes de choses. Ça peut paraître provocateur comme question, mais il y a beaucoup de chercheurs en nutrition qui fournissent des données à des entreprises qui développent des applications. Il y en a un exemple que je vais te donner, Olivier Joliet, un professeur du Michigan, qui a fourni ses données aux développeurs de l'appli I Eat Better en anglais. Puis, ça sort en juin une nouvelle version axée sur une meilleure compréhension scientifique des habitudes alimentaires saines, puis les avantages. Et puis, il y a une autre application, Day2, qui est issue de d'autres recherches de l'Institut Wiseman en Israël. Et ça repose sur un algorithme qui analyse les données pour les réactions glycémiques de différents individus à des dizaines de milliers de repas différents. Donc, on avance vraiment avec l'intelligence pour ça. Mais l'affaire de l'espérance de vie puis de garder le régime pour le reste de la vie, ben c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas réaliste. Donc, votre 13 ans là, que vous pouvez gagner d'espérance de vie avec le régime optimal, ben c'est pas du garanti-garanti. Là, ce qu'on dit souvent, c'est allez-y au moins du mieux que vous pouvez. Comme par exemple, la viande rouge, même si on dit là, qu'il ne faudrait pas en manger du tout, ben on dit juste de baisser zéro viande rouge, là, juste diminuer la consommation, ça va avoir des belles conséquences positives sur la santé. Puis les dernières recommandations françaises sont moins injonctives, on va dire, que les précédentes. Là, au lieu de demander de se conformer à des quantités d'aliments, aujourd'hui, on recommande d'aller vers ou de réduire tel ou tel produit. Et ça fait le travail. Puis il y a plus en plus d'experts qui estiment que l'impact sur la santé d'un aliment, ça dépend d'un autre critère essentiel, son degré de transformation. Alors, c'est bien beau là, de manger très bien, puis le régime optimal, mais si on prend des aliments ultra transformés, les fameux procédés industriels là-dessus, l'extrusion, le pré-traitement par friture, l'intégration de beaucoup d'additifs, bien, tout ça rend la nourriture très mauvaise. Alors, augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité, ça serait associé à une consommation régulière de produits ultra transformés. Faites attention à ça. Et je vais vous rappeler là, ce qu'il faut manger et mettre dans l'assiette. Du poisson, des légumineuses, des fruits et légumes, des noix. Et ce sera merveilleux. Vous allez avoir le régime optimal.
Pas trop de gros burgers saignants, là, puis de choses comme celle-là, autrement dit.
Il faudrait éviter le plus possible, mais on peut vraiment gagner des années de vie. Donc, pourquoi pas le tenter puis d'essayer de le maintenir?
Juste en une toute petite minute ou à peu près, je vais ouvrir une parenthèse parce que je ne l'ai pas faite la semaine dernière et je veux la faire absolument. Vous savez que le mois de mars, c'était le mois de la francophonie. Hein? Il y avait les rendez-vous de la francophonie, entre autres choses. Là, c'est clair, on est rendu au mois d'avril, c'est terminé, mais je ne veux pas que vous perdiez la bonne habitude de quand même aller faire un tour, si ça vous tente, sur le site rvf.ca. J'ai oublié de le dire la semaine dernière, mais il faut que je vous le dise parce que même si les rendez-vous de la francophonie, à proprement parler, sont terminés, il reste tellement de belles affaires à faire sur ce site Internet-là et à découvrir. Puis les jeunes, entre autres choses, là, on est dans la dernière ligne droite ou à peu près de l'année scolaire, là, rendu à ce temps-ci de l'année. On s'en va vers les examens de fin d'année. Si vous voulez parfaire vos connaissances en français puis en apprendre puis tout ça, là, allez là. Il y a pas mal de matières didactiques puis de matières pédagogiques pour les jeunes. C'est pas mal intéressant. rvf.ca. Je ferme la parenthèse. Dans un tout petit instant, je vous parle très brièvement du mythe de l'Atlantide qui a été relancé par une surprenante découverte. Et toi, tu vas nous parler, entre autres choses, de magnésium, Sébastien. C'est ça, hein?
Oui, et de prémonition. Je ne savais pas lequel on faisait en premier. Deuxième bloc, prémonition.
On revient avec ça dans un instant. Restez branchés.
Peut contenir des infos.
Bon, on va parler de prémonition dans quelques instants avec Sébastien. Il n'avait pas vu venir celle-là, il n'y a pas eu de prémonition. Moi, je vais vous parler du mythe de l'Atlantide qui a été relancé par une surprenante découverte. Vous savez ce que c'est que l'Atlantide, hein? Dans deux de ses ouvrages philosophiques, le célèbre philosophe grec Platon, tu as déjà entendu parler de Platon, forcément. Oui. Il parlait de cette terre de l'Atlantide qui était au-delà des colonnes d'Hercule, qui est dédiée à Poséidon, en quelque sorte, le dieu grec des mers, donc l'Atlantide. C'est une île qui avait fini par être engloutie par les flots lors d'un cataclysme apparemment provoqué par Zeus. Qui est Zeus, évidemment.
Un dieu grec, ça?
Absolument. C'est le dieu suprême. Zeus, c'est le dieu de tous les dieux de la mythologie grecque. Alors, depuis l'Antiquité, cette fameuse Atlantide alimente les mythes et les légendes. Et puis, on se demande même, à un moment donné, on dit, ça a-tu déjà existé, ça, l'Atlantide? Peut-être. La cité engloutie de l'Atlantide a-t-elle réellement existé? Il y a des scientifiques espagnols qui ont découvert au large des îles Canaries une immense, immense formation volcanique sous-marine qui est baptisée le mont Los Atlantes et qui, s'il faut en croire leurs travaux, leurs découvertes, pourrait être la source de cette fameuse légende de l'Atlantide. Alors, les scientifiques qui font partie d'un institut géologique et minier en Espagne, ils ont fait l'étonnante découverte d'un mont sous-marin qui abrite trois volcans inactifs à plusieurs kilomètres de profondeur au large des îles Canaries. Et c'est assez particulier, cette espèce de formation-là pourrait effectivement avoir abrité des humains il y a plusieurs siècles. On pourrait même dire plusieurs milliers d'années. Et le mont Los Atlantes, c'est une immense étendue de terre, jadis apparemment située hors de l'eau, mais elle aurait été engloutie depuis et elle fait un diamètre d'à peu près, écoutez ça, 50 km de largeur. Ça fait quand même une belle île. Alors, cette montagne serait bel et bien à l'origine d'une série d'autres îles formées par des éruptions volcaniques il y a des millions d'années. Et elle aurait été par la suite tout à fait habitable parce qu'elle était en dehors de l'eau, cette formation-là, donc ce qu'on appelle le mont Los Atlantes. Avec le poids des années, elle a fini par couler, s'enfoncer dans l'océan et elle aurait ressurgi lors de la dernière grande glaciation. Et c'est à ce moment-là ou à peu près pendant ces années-là qu'elle aurait été peuplée dans une certaine mesure et elle a par la suite été immergée. Donc, d'en dessous des flots, à l'époque où il y avait de l'eau sur quasiment toute la planète, elle a émergé pendant la grande glaciation. Elle a été probablement peuplée et elle a par la suite été immergée par les flots et c'est là justement où, pendant cette période-là, elle aurait été habitée. Une société qu'on décrivait comme étant très, très, très avancée, mais qui avait été punie apparemment par Zeus en raison de sa décadence. Bon. Mythe, légende, vrai, pas vrai, on ne le sait pas, tu sais, c'est Platon. Lui, il existait, le Platon, on s'entend, là. Mais la cité de l'Atlantide a-t-elle existé? Grande question. Et ce qui fait dire ça à ce chercheur principal et son équipe, c'est qu'il y a d'étonnantes similitudes entre le mont Los Atlantes et cette fameuse Atlantide qui est décrite par Platon, tant par la situation géographique que l'apparence des lieux. Si vous y croyez ou pas à l'Atlantide, ça pourrait bel et bien avoir existé, ou en tout cas, on va continuer à faire des travaux pour voir si effectivement il y a eu de la vie là-dessus. Est-ce que ça pourrait être de cette fameuse formation-là dont Platon, le célèbre philosophe grec, parlait? Ça reste à suivre.
Il y en a des mystères comme ça dans les vieilles civilisations.
Oui. C'est comme, par exemple, l'Arche de Noé. Tu sais, à un moment donné, on disait, est-ce que l'Arche de Noé a réellement existé? On pense l'avoir retrouvée quelque part en Turquie, dans une montagne ou je ne sais pas trop. Tu sais,
il y a des affaires c'est d'imaginer l'autre, là, Noé, courir après tous les oiseaux puis les espèces de tous les petits animaux pour en mettre dans l'Arche. Pas sûr, ça a l'air compliqué.
Ça a l'air arrangé un peu avec le gars des vues, comme on dit.
Ça me semble métaphorique comme histoire là, pour comprendre différentes choses de philosophie. Ça reste à chacun son interprétation.
Voilà. Tu veux nous parler des prémonitions?
Ah, ben un autre mystère.
Oui.
On y va fort sur le mystère. Les prémonitions, est-ce que tu en aurais déjà eu, Simon, ou un rêve prémonitoire? Est-ce que ça t'est arrivé?
Ça m'est déjà arrivé.
C'est spécial.
C'est spécial. Quand tu dis, hein? Ah, j'avais vu ça venir, me semble.
Ouais, oui.
Ça m'est déjà arrivé.
Et c'est ça que c'est, une prémonition. En fait, ça vient du latin prémonitio, qui veut dire avertissement. Donc, aussi simple que ça. Donc, c'est le pressentiment de savoir ce qui va arriver dans l'avenir, une intuition qui est d'origine inexpliquée. Par contre, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la réponse claire d'où viennent les prémonitions ou est-ce que ça existe ou non, mais on va voir ce qu'on peut en dire par la recherche. Dans le dictionnaire Larousse, ce que ça dit comme définition, prémonition, c'est un avertissement inexplicable d'un événement à venir qui s'impose à la conscience. Donc, tout simplement. Dans plein de romans... S'il y en a, par exemple, on parle de prémonition, mais souvent considérés comme des romans prémonitoires, certains romans, parce qu'ils évoquent des faits survenus ultérieurement. Ça, on a déjà vu ça. On lit quelque chose, puis ça arrive quelques années plus tard ou des décennies plus tard. Je vais en nommer un, par exemple, le roman Le naufrage du Titan, qui avait été comparé au naufrage du Titanic. Alors, ça avait été écrit par Morgan Robertson, publié en 1898. Puis, 13 ans plus tard, est arrivé le naufrage du Titanic qui était pas mal décrit là, comme ce qu'on voit dans le livre « Le naufrage du Titan ». « Les yeux des ténèbres », un autre roman de « The Eyes of Darkness », parce que c'est un roman anglais à la base, de science-fiction de Dean Koontz, publié en 1981, qui parlait dans ce livre-là, attention, d'un mystérieux virus nommé « Wuhan 400 ». Ça, c'était sorti en 1981, mais franchement, là, ça racontait la pandémie de COVID, pas à peu près. Là. Alors, c'était comme un roman prémonitoire, là, The Eyes of Darkness. Et ça avait été purement inventé, là, au fait. Et puis, coronavirus qui est arrivé en 2019-2020, c'était 40 ans d'avance qu'on avait dit quasiment mot pour mot là, ce qui arrivait. Alors bon, malgré le fait que les épidémies et les armes bactériologiques, là, on en voit souvent dans des romans de science-fiction, là, faut pas non plus... Il y avait des fortes chances qu'à un moment donné, quelqu'un prédise une affaire de même. Alors, c'est juste des exemples. Mais il y a des médecins, des psychologues qui se sont penchés sur les sujets de prémonition, puis qui démontrent que ça existe, du moins, dans le cerveau de ceux qui les vivent. Ah, ça, c'est parce que quand on en a une prémonition, on veut pas, on n'a pas le choix d'y croire. Hein. On voit quelque chose, puis ça arrive. On ne peut pas faire autrement que de se dire « j'ai eu une prémonition ». Il y en a des magiciens qui disent qu'ils peuvent lire dans les pensées, là. On a fait déjà des scans du cerveau même chez des mentalistes, comme par exemple l'Américain Gérard Sénéhi. Il a fait un scan de cerveau pendant qu'il tentait de reproduire un dessin qui était masqué à sa vue. Il voyait pas le dessin, puis il tentait de le refaire, là. Et puis, on a vu dans son cerveau l'activation de son gyrus parahippocampique. Et ça, du côté droit. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une belle aptitude à l'empathie. Tu vois, avec son affaire de dessiner le dessin sans le voir, là, tu sais, dans le fond, là, c'est quelqu'un qui est très, très bon pour comprendre les autres. Puis, c'est pas mal ça, les mentalistes. Hein?
OK.
Bon, mais il serait simplement plus doué pour se projeter dans la peau des autres que les personnes comme vous et moi, les mentalistes. Ensuite, il s'appuie sur une bonne faculté d'observation. Ça leur permet d'anticiper des réactions comme de suggérer des comportements. Hein? C'est ce qu'on en comprend. Mais notre cerveau, il anticipe, lui, les situations qui vont se produire. Alors, pour les prémonitions, là, un cas typique, par exemple, ça s'est peut-être déjà arrivé, mais moi, je l'ai vu souvent arriver à des mamans qui pensaient à leur enfant, puis justement, l'enfant téléphone. Ça arrive direct après. Puis, il y en a beaucoup des gens qui pensent à un ami, puis là, justement, l'ami téléphone. Donc, ça, là, c'est le cerveau qui anticipe des situations. Je vous explique. L'ordinateur cérébral qui crée un lien qui est inexistant entre deux scènes parfois. On interprète de manière biaisée comme de la prémonition des fois, mais c'est souvent juste le cerveau qui se prépare le plus en amont possible à ce qui pourrait arriver. Okay. Et puis ça peut réagir au quart de tour. Donc, parfois, ça a l'air d'une belle prémonition magique, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a des expériences qui ont révélé quand on visionne des vidéos, des fois, le pouls puis la transpiration accélère quelques secondes avant qu'il y ait une image violente. Si le cerveau savait que ça allait arriver. Et ça reste encore à déterminer la cause de ça, mais ça arrive assez fréquemment, des choses comme ça. Des prémonitions qui sont des prévisions dans le futur qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Tu sais, il y en a que c'est des voyants, là on ne parle pas de la même chose. La prémonition, c'est vraiment la petite affaire qui arrive. On ne parle pas d'astrologie, on ne parle pas de rien de ça. C'est juste quelque chose de spontané. Comme un rêve prémonitoire aussi, là, c'est à discuter, mais les prémonitions peuvent être des grandes prophéties parfois, et ça peut être important dans nos vies, et ça peut être des fois ou juste des petits événements qui nous avertissent ou qui nous guident. Donc, il y a des gens qui croient beaucoup que ces prémonitions viennent de l'au-delà, ou bon, personne ne sait réellement pourquoi on en a, mais il y a une théorie dont je vais te parler commune, et qui dit que les prémonitions sont souvent là pour nous parler du danger. Nous avertir d'un danger. Puis je vais te compter juste vite, là. Une fois, moi, j'étais en train de danser sur de la musique dans un salon. Puis j'ai entendu un gros sifflement dans mon oreille, mais vraiment intense, là. Un sifflement. J'ai arrêté, puis j'étais à un centimètre d'un hameçon de pêche qui était après une ligne à pêche, puis je m'en allais m'accrocher devant. Puis j'ai eu un sifflement dans l'oreille.
Ah oui, hein?
Qui m'a averti du danger. J'ai jamais compris pourquoi. Puis ça m'a jamais refait ça par la suite. Mais cette fois-là, un sifflement très fort juste avant de m'accrocher dans un hameçon. Je te dis, j'ai arrêté à un centimètre de l'hameçon juste avant à cause de la force du sifflement. Fait que ça, j'ai pas compris, mais c'était comme une petite prémonition danger. Puis quand j'ai lu justement que les prémonitions souvent sont pour nous avertir du danger qui nous entoure, ben j'ai trouvé, il m'était-tu arrivé un petit signe avant-coureur pour me protéger? Je sais pas. Mais il existe beaucoup d'histoires de personnes qui ont été sauvées grâce à des prémonitions ou qui ont sauvé quelqu'un. On pense aussi à des réactions de combat ou de fuite qui déclenchent parfois des prémonitions. Mais les exemples les plus courants font référence à des personnes qui sentent qu'elles doivent prendre une route différente de leur habitude. Comme par exemple, on ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, on sent qu'il ne faut pas passer par là. On change de place, puis on évite un accident mortel. Mais certaines personnes qui sont plus spirituellement à l'écoute, on va dire, pourraient avoir l'impression d'avoir beaucoup de prémonitions. Puis, il y en a d'autres qui ont tendance à dire qu'elles n'en ont jamais. Bon, mais ceux qui ont l'impression d'avoir des prémonitions ont simplement l'habitude de savoir peut-être où est-ce qu'il faut surveiller dans sa tête. Tu sais, c'est assez spécial, mais peut-être qu'on en a des prémonitions sans le savoir aussi. Puis, en vieillissant, on apprend à transformer des choses qui n'ont pas de sens. Je t'explique comme des prémonitions qui sont le résultat direct de quelque chose d'inexplicable. ça semble pas avoir de sens des fois, mais quand on s'ouvre à ça, bien, on peut développer comme un peu un sixième sens. Puis il y a des gens qui ont dit qu'en s'étant penchés sur le cas, ils sont mis à avoir plein de prémonitions de plus en plus. Alors bon, comment ça se manifeste? On peut y aller vite, vite. Il y a les rêves prémonitoires. Ça semble tellement réel qu'on pense que c'est réel des fois. Ou un rêve qui se répète de nuit après nuit, qui est un signe qu'on devrait faire vraiment attention à quelque chose. Et un sentiment inexplicable qu'on devrait faire quelque chose, aller quelque part ou voir quelqu'un qui n'a pas de sens, mais qui devient extrêmement fort. Alors ça serait une prémonition. Il y a aussi notre instinct ou notre intuition qui devient plus fort et plus clair. On peut même entendre une voix qui nous dit de prendre garde ou de ne pas partir à tel endroit. Bon. Puis nos sens qui deviennent exacerbés sans raison apparente. Il y en a qui disent qu'ils ressentent des énergies de cette façon-là. Et aussi, si quelqu'un remarque beaucoup de coïncidences, bien, ça peut être un signe avant-coureur de l'avenir également. Et si vous êtes incapable d'amener une certaine pensée en dehors de notre esprit, comme si elle s'était enfouie profondément dans le cerveau, bien là, c'est une autre prémonition. Bien, ce que je vais dire là pour terminer sur les prémonitions, Simon, c'est important de les reconnaître. Ce serait bien si vous êtes capable. Et avec le temps, on pourrait être en mesure de le faire beaucoup plus facilement. Puis des prémonitions, même si on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ça peut changer notre vie pour le mieux, nous avertir du danger et en général, nous donner un aperçu sur l'avenir. Alors, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ben ça vaut la peine d'y donner un petit peu d'importance, voir si ça ne pourrait pas nous enligner des fois, nous sauver des problèmes. Voilà.
Merci, Sébastien. Et moi, je vais te lire ton sujet en disant que si vous entrevoyez que dans un instant, on va s'attaquer au troisième bloc de l'émission, ce n'est pas de la prémonition. C'est juste que vous êtes des habitués, puis vous savez qu'on a quatre blocs à faire, puis on a un troisième dans un instant. On va s'arrêter pour une pause, tout simplement.
Il n'y a rien de magique dans ça.
Il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a pas de prémonition. On vient après la pause, restez branchés.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ben, je vous l'avais dit, hein, que c'était pas de la prémonition, votre affaire, si vous saviez qu'on a un troisième bloc et qu'on le commence à l'instant, parce que c'est comme ça l'émission, c'est 1, 2, 3, 4. Et à ce moment-ci, ben, c'est Sébastien qui va commencer et qui va nous parler de magnésium.
Ben oui, dans mes problèmes, j'ai eu des problèmes de santé là, plusieurs fois dans ma vie où les gens m'arrivaient avec la solution « faut que tu prennes du magnésium ». Pour toutes sortes d'affaires. Puis j'étais là, ben voyons, j'ai décidé de faire des recherches parce que est-ce que le magnésium, c'est si bon ou est-ce que c'est si important? Ça peut régler plein de problèmes. Et je te dirais que je suis surpris. Magnésium semble très, très, très important dans la vie et plus que je pensais. Donc, raison du sujet aujourd'hui, c'est un des minéraux les plus indispensables à notre santé. En fait, le magnésium, il interviendrait dans plus de 300 systèmes enzymatiques, pourrait contribuer à prévenir ou à combattre beaucoup de maladies, des maladies chroniques, des affections, toutes sortes de choses. Alors, le magnésium, on en manque souvent, alors c'est important. L'organisme humain contient en moyenne 25 grammes de magnésium qui est concentré, bon, la majorité dans les os, il y en a aussi dans les muscles squelettiques, et le reste des 25 grammes se répartissent dans les nerfs et différents organes. Il y a le cœur, le foie, tube digestif, les reins qui ont du magnésium. Et on en élimine. Et l'élimination du magnésium augmente sous l'effet du stress. Quelqu'un qui est stressé, il perd son magnésium. Il y a certains troubles ou traitements médicamenteux qui font en perdre aussi. Puis, l'activité physique intense aussi. Alors, l'alimentation actuelle qui est riche en produits raffinés, bien, ça ne fournit pas suffisamment de magnésium pour compenser, pour toutes les fois où on en perd. Alors, c'est pourquoi il existe des suppléments. Il y a beaucoup de gens, moi, c'est de ça qui me parlaient, les gens. « Hey, tu devrais prendre des suppléments de magnésium pour ci, pour ça. » Bon. Faut pas prendre ça sans s'informer. Hein? Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? On en trouve sous plusieurs formes. Il y en a en aspartate, en carbonate, en citrate, en gluconate, en oxyde et des sulfates de magnésium. Alors, toutes sortes de façons. Magnésium qui intervient dans la transformation des aliments en énergie. Alors, c'est important. C'est grâce à ça là, qu'on mange puis on a de l'énergie à dépenser. Ça a aussi la transmission de l'influx nerveux, le relâchement des muscles, la formation des os et des dents. On doit ça au magnésium et il agit avec le calcium. C'est sûr que vous allez dire les dents, vous avez déjà entendu parler du calcium, mais ça le prend avec le magnésium et le potassium. Et là, ça ensemble, ça régularise le rythme cardiaque, participe à la production de l'insuline aussi. Bon, ça aide à traiter, je vais te dire là, des bienfaits, ça aide à traiter la spasmophilie, la dépression. Ça contribue à prévenir l'arythmie, les maladies cardiovasculaires, le magnésium qui peut soulager les symptômes de la fatigue musculaire chronique, lutter contre l'hypertension artérielle, ça peut atténuer l'intensité des allergies, hein? Alors, pensez-y. Ça peut soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Ça prend du magnésium. Il y a des femmes qui s'en plaignent beaucoup d'avoir des symptômes très intenses avant les menstruations. Ben, prenez du magnésium. Et ça semble efficace pour soulager les crampes abdominales. Ça renforcerait la densité des os chez les femmes ménopausées. Ça prévient l'ostéoporose. Alors là, le magnésium, il y en a des bienfaits. Et puis, pour en avoir, sais-tu où est-ce qu'on peut avoir ça facilement là, dans l'alimentation? Je parlais de régime optimal tout à l'heure, Simon. Il y a quelque chose dans le régime optimal qui est plein de magnésium.
Poisson, probablement.
Ben oui, mais les céréales complètes.
Ah, les céréales complètes, OK.
Les fruits secs.
OK.
Aussi. Les légumineuses, plein de magnésium. Les légumes à feuilles vert foncé. Les coquillages, le chocolat noir. Certaines eaux minérales, là, il faut regarder les étiquettes, mais il y en a qui sont riches en magnésium. Et une bonne portion de riz sauvage. Ben ça, c'est bon, c'est 25 % des besoins quotidiens de magnésium. Alors, des récentes recherches qui disent que le magnésium favoriserait le rétablissement après un infarctus parce que ça inhibe la formation de caillots de sang. Puis, ça évite les spasmes artériels, les arythmies cardiaques dangereuses. Alors, c'est tellement important. Puis, un apport adéquat de magnésium, ça préviendrait le diabète de type 2. Alors, non seulement ça décontracte les muscles, ce qui le rend utile dans le traitement des blessures des sportifs, hein, le magnésium, et de la fatigue chronique, de la fibromyalgie aussi. On favorise avec le magnésium le traitement de l'asthme, de la bronchite. Il dilate les voies respiratoires, puis son rôle dans la prévention ou le traitement des allergies et des migraines n'est pas formellement attesté, sauf qu'il y a des études qui disent que ça renforce l'action du sumatriptan. C'est un médicament, puis si on le prend avec du magnésium, ben, il est encore meilleur. Et puis, si vous avez un traitement médical, ben c'est sûr, il faut consulter votre médecin avant de prendre des suppléments de magnésium. Là. En cas de troubles rénaux aussi, il faut vraiment consulter avant de prendre du magnésium. Mais je vous dirais que ce n'est pas dangereux dans la plupart des cas. Et ce qu'on recommande à chaque jour, c'est 420 mg pour un homme et 360 mg pour une femme de magnésium. Sauf indication particulière, il ne faut pas dépasser un apport total de l'alimentation en plus des suppléments de 770 mg. Donc, il faut faire attention à ça. Peut-être compter vos affaires si vous rajoutez des suppléments là, parce qu'il y en a déjà dans votre nourriture. Mais une carence, même légère en magnésium, c'est grave. Ça augmente tellement les risques de maladies. Ça peut aussi provoquer toutes sortes de choses, de spasmophilie, comme je te disais, et les allergies également. Alors, et dans le cas où vous avez trop de magnésium, ben là, vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées. Il ne faut pas en prendre trop. En cas d'atteinte rénale, quand l'organisme est incapable d'éliminer le surplus par les urines, ben là, il y a une faiblesse musculaire, léthargie, confusion même, ou des difficultés respiratoires. Mais le surdosage, c'est juste quand les gens font ça de façon non contrôlée, là, puis qu'ils se supplémentent beaucoup trop. Dans la nourriture, vous n'arriverez jamais à avoir trop de magnésium finalement. Et puis, c'est mieux absorbé quand on prend le magnésium pendant un repas.
Okay.
C'est sous forme de citrate que l'organisme l'absorbe le mieux, parce que je vous disais tantôt, il y a toutes sortes de façons, hein, citrate, sulfate, tout ça. C'est le citrate qu'on absorbe le mieux pour le magnésium. Il fait baisser la tension artérielle, une diminution de la tension artérielle de quelques points, mais ça suffit à réduire les risques d'infarctus, alors c'est très important. Puis l'eau, qui est dure, là, quand on dit l'eau dure, ben c'est meilleur pour la santé que de l'eau douce. Elle contient du calcium, mais aussi du magnésium. Il y a d'autres minéraux aussi. Alors, si votre eau est trop douce à la maison, vous pouvez la faire analyser, bien là, il faudrait prendre du magnésium en plus. Puis, si vous prenez des suppléments de magnésium, associez-les à des suppléments de calcium, les deux ensemble. Et puis, un apport déséquilibré entre ces deux-là, bien, ça pourrait réduire leurs effets bénéfiques respectifs. Alors, informez-vous et prenez les deux. Mais tout ça pour dire que le magnésium est tellement important. Alors là, je comprends les gens qui me disaient, prends ton magnésium, je vais en prendre maintenant.
Merci Sébastien pour les conseils santé très intéressants. Te promener avec une batterie nucléaire dans tes poches, est-ce que c'est quelque chose que tu penses du domaine du possible?
Ce serait pas dangereux ça? Est-ce que les radiations sont arrêtées là, dans mes poches? Pas trop confiant.
Ben, écoutez, on vous avait glissé un mot l'an dernier là-dessus, en janvier 2024, dans l'émission « Peut contenir des infos ». On vous avait parlé de la possibilité d'avoir un jour une batterie nucléaire, soit dans notre cellulaire ou quelque appareil électronique. Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est fait. On débute la production de la première batterie compacte nucléaire. la BV100. C'est un fabricant chinois de batteries qui s'appelle Beijing Betavolt New Energy Technology qui a réalisé cette percée historique. Ils y travaillaient l'an dernier. Ben là, ils viennent de le faire. Ils commencent la production et ça déclenche évidemment une course mondiale à l'énergie nucléaire compacte.
Eh bien.
Jusqu'à tout récemment, ça tenait à peu près du fantasme parce que les batteries nucléaires, c'était des grosses affaires. T'sais, c'était monstrueux. Mais cette technologie-là, dans une certaine mesure, c'était un bond significatif vers une solution de stockage de l'énergie à la fois pratique et évolutive. Et comment cette batterie-là, la BV100, produit de l'électricité, parce que c'est évidemment de ça dont on parle, hein, une batterie, c'est le but, c'est de produire de l'énergie ouais. pour faire fonctionner, ben elle exploite l'énergie qui est produite par la désintégration radioactive de son cœur en nickel-63. Alors, le cœur de cette batterie-là fait à peine 2 microns d'épaisseur, pris en sandwich entre deux semi-conducteurs en diamant d'à peine 10 microns d'épaisseur. Juste pour vous faire une comparaison, là, le diamètre moyen d'un cheveu humain, c'est de 70 microns. Donc, quand okay. je vous dis que quand je vous dis 10 microns d'épaisseur... Là, pour
7 fois plus petit qu'un cheveu.
C'est quand même assez mince, là. Alors, elle est très compacte. On s'entend que pour une si petite batterie, ça donne pas une très, très grosse puissance. Là, pour l'heure, on parle de entre 100 microwatts à 3 volts. C'est encore peu, mais l'avantage de ce genre de batterie-là, c'est qu'on pourrait les installer en série ou en parallèle. Alors, c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement se retrouver à avoir dans notre téléphone cellulaire des petites batteries nucléaires. Spécial quand même, on ne s'attendait pas à ça. L'entreprise dit qu'elle va d'ailleurs lancer une version plus puissante qui va faire quant à elle 1 watt plus tard cette année avec des utilisations qui vont de l'électronique grand public jusqu'aux drones qui seront capables de voler en continu sans recharge. Et savez ce que c'est que l'avantage de cette batterie nucléaire?
C'est qu'elle va pouvoir... recharge tout seul?
C'est parce que tu n'as pas besoin de la recharger. C'est qu'elle va fonctionner pendant... Essaye de guesser, essaye de deviner pendant combien d'années une batterie nucléaire semblable pourra fonctionner.
Ben, j'imagine que c'est à l'infini, quoi.
Ben non, pas à l'infini, mais ça tient quand même. Dans la vie d'un être humain, si tu as une batterie comme celle-là dans ton téléphone cellulaire, ton cellulaire pourrait peut-être te survivre avant que la batterie s'éteigne, parce qu'on parle d'à peu près une cinquantaine d'années.
OK.
Ça va fonctionner pendant une cinquantaine d'années ou à peu près. Alors, ce qui est quand même pas mal, et sans recharger, là, ça veut dire que si tu as un drone... que tu as une batterie comme ça dedans ou un téléphone cellulaire, ça veut dire à toute fin utile que tu n'auras pas besoin de recharger.
Tu peux voler pendant 50 ans avec ton drone.
Pendant 50 ans à toute fin utile.
Mais quand même, là, après ça, la vie de la batterie est terminée. Là, c'est terminé. C'est qu'après 50 ans, là, la batterie est finie.
C'est ça. Et elle a une très grande résistance aux conditions extrêmes. Elle pourrait fonctionner à des températures de moins 60 degrés jusqu'à 120 degrés Celsius. Et les impacts environnementaux de cette batterie-là sont quand même relativement minimes parce que le cœur radioactif de nickel-63, dont je parlais tantôt, lui, il se désintègre en cuivre au fil du temps. En cuivre stable. Alors, c'est pour ça qu'une fois qu'elle aura terminé sa vie utile d'une cinquantaine d'années ou à peu près, on pourra éviter plusieurs étapes coûteuses de recyclage des batteries parce qu'on va avoir du cuivre à toute fin utile. Et on sait que le cuivre, c'est très courant dans le filage, par exemple, dans les choses comme celle-là. Alors, on pourra réutiliser le cuivre de ces batteries-là. Et je le disais tantôt, c'est une grande révolution parce que les batteries jusque-là qui étaient nucléaires, on va dire, c'était des batteries qui étaient gigantesques. On se servait de ça, entre autres choses, pour faire fonctionner des satellites. Parce que c'était considéré comme relativement peu stable, ou en fait, un peu dangereux. Là, c'était un peu fréquent, une batterie nucléaire. Mais cette batterie nucléaire-là, le principe de cette batterie fait que c'est tellement peu dangereux pour l'être humain et c'est tellement compact qu'on pourra éventuellement la retrouver dans nos téléphones cellulaires, dans nos petits robots, dans nos appareils électroniques comme votre tablette tactile à la maison, des choses comme celle-là. Et ça ne s'arrêtera pas. Hein, si vous pensez que c'est rendu loin, la technologie. Là, c'est les Chinois qui ont accouché de ça. Je l'ai dit tantôt, une compagnie qui est à Beijing. Mais les États-Unis et les Britanniques également travaillent à eux autres aussi, d'ici les prochaines années, accoucher de batteries nucléaires très, 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 très petites. Dans un moment, on s'attaque à notre quiz et on y va avec un quiz sur les chapeaux.
Tu m'avais dit les chapeaux.
Les
bien
chapeaux.
Bien oui.
On parlait des chapeaux dans un instant.
On verra si je m'y connais.
Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
C'est le quiz, le moment tant attendu de l'émission où on, non seulement on teste les connaissances soit de Sébastien quand c'est moi qui pose des questions, comme cette semaine, ou soit les miennes quand c'est lui, comme la semaine dernière, qui fait le quiz. Mais en même temps, vous pouvez également jouer à notre quiz et répondre aux questions parce que ça s'adresse également aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine, on va parler... On parlait des chapeaux.
Bon, c'est ça, chapeaux. Enfin un sujet là, à la hauteur de mes attentes.
As-tu des grandes connaissances en matière de chapeaux? D'abord,
j'en ai aucune idée. C'est dur à dire.
Chapeaux? Portes-tu des chapeaux?
Un chapeau de cow-boy, oui, j'en ai un. Okay. Ça m'arrive de le porter. J'ai porté des casquettes à un moment donné, mais non, okay. À part mon chapeau de cow-boy, j'ai pas arboré de nombreux chapeaux.
T'as pas un garde-robe qui est rempli de chapeaux à la maison chez
vous? Non. J'aimerais ça, un petit chapeau melon qui traîne par-ci par-là, mais j'en ai pas.
Alors, prends des notes. Il y a, en tout et pour tout, une dizaine de questions.
Donc, oui, le pourcentage.
Le pourcentage va être quand même pas pire à faire, hein? 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Alors, on commence avec une première. Elle va être facile. On va te ménager. On va ménager, messieurs, dames qui êtes à la maison. C'est quoi le nom du chapeau associé traditionnellement au Mexique?
Le sombrero.
Ben, bonne réponse en partant. Il y avait un choix de réponse. Le fedora, le béret, le sombrero ou le Stetson. Et effectivement, c'est une première bonne réponse. T'as bien raison. Le sombrero, c'est un chapeau large avec un contour circulaire. Les joueurs de guitare là, qu'on voit là, dans les
flamingo.
Non, ouais, ben flamingo. Oui, je pense qu'ils portent des sombreros, mais j'essaie de dire le nom là des bonhommes là. Les mariachi. Oui. Les mariachi portent ça des sombreros. On les voit là. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Alors c'est un sombrero. D'accord. Alors, question numéro 2. Quel type de chapeau est souvent associé au personnage d'Indiana Jones? Là, tu as eu la première, tu as été pas pire. Je pense que tu vas avoir besoin du choix de réponse pour ce deuxième.
Oui, parce que je sais à quoi il ressemble son chapeau, mais je ne sais pas comment on l'appelle.
Alors, est-ce A, le chapeau steampunk? Est-ce B, le chapeau melon? Est-ce C, le deerstalker? Ou c'est le fedora, d'après toi?
Fedora, là, je sais que j'ai vu ces chapeaux-là dans la mafia là, tu sais, italienne. Là. C'est des chapeaux qu'il y avait dans mon jeu. J'ai joué à un jeu du parrain.
Okay.
Il y avait des chapeaux fedora, fait que je pense que ce ne serait pas celui-là pour Indiana Jones. Fait que faudrait que tu me renommes les deux autres marques en anglais que tu as dit.
Ben, il y avait le chapeau steampunk, il y a le chapeau melon, il y a le deerstalker, et le fedora.
Je vais essayer le premier ou le Deerstalker. C'est quoi le nom du premier? Je vais essayer celui-là.
Le chapeau steampunk.
Ouais, mais punk, ça fait pas. OK, non, fait que je vais aller avec le troisième qui est...
Le Deerstalker.
Deerstalker, on essaie ça.
T'aurais dû suivre ta première impression, ta première opinion.
C'est-tu fedora?
Ouais, c'est un fedora.
C'est ça que c'est, hein? C'est les chapeaux comme ils ont dans les mafias italiennes.
C'est un peu ça, ouais, c'est dans le même style exactement. Alors, Harrison Ford, dans les films d'Indiana Jones, portait effectivement un chapeau de style fedora.
Voilà, alors c'est ça le style du chapeau qui est fedora.
Maintenant, on s'attaque à un autre personnage célèbre pour ses chapeaux, Sherlock Holmes. Hein, tu connais Sherlock Holmes?
Oui.
Vous autres aussi à la maison, un célèbre personnage, espèce de détective là, dans
oui, j'adorais lire Sherlock Holmes. Je me rappelle même de certaines histoires que j'avais lues étant jeune de Sherlock Holmes. J'achetais les livres. J'adorais Sherlock Holmes.
Alors, comment on appelle le type de chapeau qu'on associe à Sherlock Holmes? Est-ce que c'est A, le haut de forme? Est-ce B, la casquette irlandaise? Est-ce C, le chapeau Panama? Ou D, le Deerstalker?
Je me rappelle, parce que Sherlock Holmes se faisait souvent décrire par son auteur, Arthur Conan Doyle, avec son chapeau haut de forme.
Alors,
je dirais haut de forme. Il me semble avoir été décrit comme ça avec son chapeau haut de forme souvent à Sherlock Holmes. Mais c'est pas ça, non!
C'est pas ça, non. C'est D, c'est le Deerstalker.
Oh, qu'est-ce que je connais pas. Je vais l'essayer.
Le Deerstalker, c'est un chapeau avec les rabats sur les oreilles et qui est un peu allongé en avant et en arrière.
Oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai.
le Deer Stalker.
J'aurais dû y penser. Avoir su que le Deer Stalker, c'était ça, je l'aurais eu parce que je me rappelle que Sherlock Holmes a ses fameuses oreilles.
C'est ça. Alors, c'est les rabats là, qu'on rabat sur le côté, qu'on attache sur le dessus, puis des fois, ça retombe un peu sur les oreilles. Alors, ça, c'est le fameux Deer Stalker et c'est le chapeau qu'on associe, évidemment, à Sherlock Holmes.
Bon, fait que moi, avec mon histoire de haute forme là, que je me rappelais d'avoir lu... C'était pas ça. C'était pas dans Sherlock Holmes. C'était dans d'autres choses.
C'était pas ça partout. On revient à un chapeau dont je viens de parler, le fameux chapeau Panama. Là. C'était parmi les choix de réponse, le chapeau Panama. Quelle est la fonction principale d'un chapeau de type Panama? Est-ce que c'est A, protéger du froid? Est-ce que c'est B, donner du style? C, protéger du soleil? Ou D, s'habiller pour les mariages?
Je vais essayer de protéger du soleil.
Ben, t'as bien fait. En partant, le Panama... Faut bien se dire que c'est comme pas en Arctique, hein? Le Panama, c'est comme en Amérique latine. Puis le Panama, c'est pas reconnu pour le froid. Ça, c'est une autre affaire. Donc, forcément, fallait éviter de s'en aller vers le froid, la lettre A. Oui, ça donne du style, porter un chapeau Panama. Oui, à la rigueur, on peut le porter pour les mariages, mais la première raison pour laquelle on a conçu le chapeau Panama, qui est fait un peu avec... une espèce de paille ou quelque chose dans le genre, là. Et sa fonction première, c'est de protéger du soleil. Alors, c'est une deuxième bonne réponse. T'es pas pire. T'es pas si pire.
Deux
t'es
sur quatre.
T'es à 50 %, grosso modo. C'est pour là.
On va essayer de s'améliorer.
Quel chapeau associe-t-on aux Français?
Le béret.
Voilà, le béret. J'allais donner comme choix de réponse le béret, le haut de forme, le canotier ou le bob. Et la bonne réponse, c'est évidemment le fameux béret. C'est le chapeau emblématique qu'on associe à la France, particulièrement au domaine des arts et de la culture. Question numéro 6. Complétez le titre de cette série télévisée qui porte un nom de chapeau. Chapeau melon et... Est-ce A? Attention, je te donne un choix de réponse.
Pour heureusement, je vais l'avoir avec le choix de réponse.
Alors, est-ce A, chapeau melon et bottes cuissardes?
Non.
Est-ce B, chapeau melon et bottes d'équitation?
Non.
Est-ce C, chapeau melon et bottes de cuir? Ou est-ce D, chapeau melon et bottes de pluie?
Oh là là, c'est entre les deux derniers. Je vais essayer bottes de cuir.
Ding, 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 ding. Bonne réponse.
Bon?
Oui, bravo, bravo.
Excellent, excellent.
C'est effectivement la troisième réponse, C. Alors, chapeau melon et bottes de cuir, c'est, ben, chapeau melon, c'est britannique, en partant. Hein, les Britanniques, ils sont reconnus pour leur chapeau melon. Bottes de cuir, c'était l'autre personnage, le personnage féminin. Et le titre français, chapeau melon et bottes de cuir, de deux séries télévisées, l'une d'origine britannique, The Avengers, et l'autre qui est la suite, The New Avengers, qui est la série franco-canado-britannique. Alors, chapeau melon et bottes de cuir, c'est simplement la traduction, pas la traduction littérale, on s'entend, là, The Avengers, c'est pas la traduction de chapeau melon et bottes de cuir, mais c'est comme ça qu'on a titré les deux versions françaises de cette série-là.
Ah, ben.
Numéro 7. Quel type de chapeau est typiquement porté par les étudiants diplômés? Les as-tu déjà vu?
Oui. Les fameux chapeaux carrés, là. C'est un carré avec un
exactement.
Petit...
Avec une espèce de pompon.
Avec là, un petit cordon.
C'est ça, un petit cordon qui traîne sur le côté. Est-ce A, le mortier? Est-ce B, le trilby? C, la cloche? Ou D, la casquette?
Hey, je ne sais pas comment on appelle ça. Les deux premiers, répète-moi ça, les deux premiers choix.
Alors A, le mortier. B, le trilby. C'est la cloche ou D, la casquette?
Je sais pas, je sais pas. Je vais essayer mortier.
Ah, ben bonne réponse. Bravo.
J'avais déjà entendu ça, je crois, mais hey, que je n'étais pas sûr. Donc, on appelle ça un mortier, le chapeau mortier. Qu'on donne aux finissants.
Oui, qui porte sur la tête.
Pour
effectivement,
les photos de finissants.
C'est ça, exactement, le mortier. Trouves-tu que ça ressemble un peu à une espèce de truc pour le mortier? Là,
oui, c'est ça, hein, c'est comme une plaque pour étendre. Bon, OK, exactement. C'est pour ça que ça s'appelle
ça
le mortier.
Ça ressemble un petit peu à ça,
parce
voilà.
Parce que c'est plat.
Huitième question, ça progresse, il nous reste 3 minutes. Cet animal était largement chassé et trappé à une certaine époque au Canada afin d'en faire du feutre pour les chapeaux. Est-ce que c'est A, la moufette? Est-ce que c'est B, le castor? C, le vison? Ou D, le chevreuil?
Aïe, pour faire du feutre. Et c'est quoi qu'on faisait avec l'animal? On le chassait pour faire du feutre?
On le chassait ou on le trappait pour faire du feutre avec cet animal-là. Ouais.
Okay. On a castor, moufette.
Moufette, castor, vison ou chevreuil, d'après toi?
Je vais essayer le vison.
Mauvaise réponse,
non,
malheureusement.
C'est pas facile.
Non, c'est le castor.
Le castor en deuxième.
Ouais, entre le 17e siècle et à peu près le début du 19e siècle, les chapeaux qui étaient faits en feutre de castor, c'était des incontournables pour les hommes de haut rang, là, les gens de la haute société portaient ça, là, des chapeaux en feutre de castor. Et c'était tellement populaire que les trappeurs anglais et français, ceux qui allaient vendre, entre autres, des pots là, au comptoir de la baie du Tson. Tu sais bien, on a parlé de la baie du Tson. Alors, eux autres, ils se faisaient une vive concurrence pour avoir accès aux castors. Et la peau des castors, là, ça valait une fortune à cette époque-là. Alors, 9e question. Quel animal porte un chapeau dans le célèbre livre du Dr. Seuss qui est écrit en 1957 et qui a été par la suite porté à l'écran? Est-ce qu'on parle A, d'un chien? Est-ce qu'on parle B, d'un chat, C, un rat ou D, un lapin?
Dr. Seuss.
Dr. Seuss. Seuss. S-E-U-S-S. Dr. Seuss.
S-E-U-S-S. Je ne le connais pas. Je vais dire un lapin.
Non. Malheureusement.
C'est pas ça, malheureusement.
C'est The Cat in the Hat, le chat dans le chapeau.
Le chat dans le chapeau.
Ouais, c'est le chat dans le chapeau.
C'est ça, Dr. Seuss.
Ouais, puis écoute, on a fait une série télé avec ça, une série d'animation télé, et on a fait un film également avec le chat dans le chapeau, un livre pour enfants de 1957, écrit et illustré par l'auteur américain Theodore Geisel, qui est connu sous le nom de plume de Dr. Seuss, et c'est une histoire avec un chat anthropomorphique ou anthropomorphe avec un chapeau haute forme à rayures rouges et blanches et un nœud papillon.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, celle-là.
Le chat dans le chapeau, The Cat in the Hat. On complète avec l'expression démarrer sur les chapeaux de A. De fer.
Mais non, de roue, et j'ai mon 6e point, ça me fait 60%.
Bravo. Alors, j'allais dire fer.
Excuse-moi pour les auditeurs que j'ai répondu trop vite, j'ai même pas laissé le temps. Ça, c'est dommage pour les gens qui nous écoutent, qui doivent dire, ben là, ils nous font faire un quiz, puis là, l'autre, il répond avant même les choix de réponse.
C'est correct, c'est pas grave. Partir ou démarrer sur les chapeaux de roue, ou arriver sur les chapeaux de roue, hein, l'expression vient de l'époque où les voitures avaient tendance à basculer vers le côté extérieur dans les virages. Alors, tellement les roues s'inclinait vers l'extérieur, et plus on allait rapidement, plus forte était l'inclinaison, donc plus fort on était sur les chapeaux de roue. Alors forcément, cette expression-là, démarrer ou arriver sur les chapeaux de roue, ça désignait au sens figuré aller très vite. Alors quand on dit « il est arrivé ses chapeaux de roue » ou « il a démarré sur les chapeaux de roue », ben ça tient de un départ canon où on partait sur les chapeaux de roue.
Hey, mais merci parce que j'utilise cette expression-là fréquemment puis je ne connaissais pas la vraie signification, l'origine, l'affaire des chapeaux de roue parce que les voitures penchaient sur le côté. Quand même, vraiment intéressant.
60%, c'est quand même pas pire.
On va dire que c'est la note de passage.
Ah, c'est bon, c'est la note de passage, bravo. Et vous autres aussi à la maison, merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu à notre quiz et d'avoir été de l'émission au grand complet. Une prochaine, la semaine prochaine, Sébastien?
J'ai une petite prémonition là, qui me vient, oui.
OK, alors la semaine... suite à prémonition et on va être là la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Salut!